Bonsoir. L'année scolaire 2015-2016 a été déclarée première année du quinquennat de la qualité de l'enseignement et de la restauration du salut au drapeau en RDC. Selon le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, le gouvernement congolais s'engage non seulement à améliorer la qualité de l'enseignement en rendant l'élève congolais compétitif sur le plan international, mais aussi à faire de lui un bon citoyen. Quelle analyse faire de ces innovations? Nous en parlons avec M. Jovin Moukadi, le conseiller chargé de la coopération internationale et de la coordination des partenaires techniques et financiers au ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Bonsoir M. Jovin Moukadi.
Bonsoir M.
Stéphane Nguizani, il est secrétaire général adjoint du syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques du Congo Sénécat en sigle. Bonsoir M. Stéphane Nguizani.
Bonsoir Segui.
Et professeur Jean-Paul Yaouidi, il est au téléphone. Lui, il est doyen de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université pédagogique nationale UPEN en sigle. Bonsoir, professeur Jean-Paul Yaouidi.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Rentrée scolaire 2015-2016, le lancement officiel est intervenu lundi 7 septembre dernier à travers la RDC. Commençons par Kinshasa, la capitale. Ici, c'est le Premier ministre Matata Ponyo qui a présidé la cérémonie dans l'enceinte de l'école primaire Rivière, située dans la commune de Limété, quartier Salongo. À l'occasion, le chef du gouvernement a procédé à la remise officielle de quelques écoles construites par le gouvernement, mais aussi à la restauration officielle du salut au drapeau. Jacques-Yves Molima pour le reportage.
Faire de l'élève congolais un bon citoyen passe par une sensibilité autour d'un thème de la semaine après l'exécution de l'hymne national qui se fera désormais chaque lundi. Ainsi, à l'occasion de l'ouverture de l'année, des manuels dont ceux de l'éducation civique et morale sont distribués à certaines écoles reconstruites par le gouvernement, notamment les Périvières de Limété, Ngwanza Fataki et Mvundu à Kimbanseke. Quant à la question de l'amélioration de la qualité, le ministre Makir Mwangu a livré quelques stratégies pour ce faire.
L'école va devenir une usine de production de matériel didactique. La formation continue avec l'utilisation des technologies de l'information et des communications sera effective de cette année scolaire. Pour faire de la maison un prolongement de l'école sur le plan pédagogique, les devoirs à domicile deviennent une obligation journalière pour toutes les classes.
Tout cela pour changer l'image de l'élève congolais, en renchérit le Premier ministre Augustin Matata Ponyo.
Nous ne devons pas faire une production rabais, mais une production de qualité pour que les élèves de la RDC puissent être compétitifs non seulement sur le plan national, mais aussi sur le plan international. Nous allons maintenant commencer la cotation des meilleures écoles.
Encore faudra-t-il que tous les intervenants dans le secteur de l'enseignement soient et restent conscients.
Comment s'est déroulée cette première journée de rentrée scolaire? Jocelyne Moussaou a sillonné quelques écoles. Voici son reportage.
C'était le premier exercice pour les élèves ce lundi avant d'accéder dans les salles de classe. Les saluts au drapeau avec exécution de l'hymne national. Une découverte pour eux tous, d'autant plus que la pratique est abandonnée depuis près de deux décennies. Mais qu'en pense-t-il?
C'est une bonne initiative pour apprendre à ceux qui ne connaissent pas l'hymne national de notre pays.
C'est un devoir civique de respecter notre drapeau, notre hymne.
Du côté des parents, les avis sont partagés.
Ça va inculquer le respect du bien commun.
Ça pousse les enfants à avoir l'esprit patriotique.
Il faut que nos enfants puissent connaître l'hymne national.
Je ne sais pas quoi ça peut rapporter aux enfants.
C'est n'importe quoi. Je pense que ce n'est pas important.
Les éducateurs, eux, estiment que le salut au drapeau va raviver des valeurs, ce qui à la longue va emmener d'une manière globale au changement des mentalités. Henri Mola, conseiller pédagogique au groupe scolaire Lisanga Bokeleali.
Ils sont devenus inciviques et on ne sait plus là où nous amenons le pays. Alors nous sommes contents que le ministère de l'EPSP ait pris la décision de remettre la dimension nouvelle citoyenneté aux écoles.
Les saluts au drapeau, c'est désormais tous les lundis et le dernier jour de la semaine. Et les écoles recevront chaque semaine du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté un thème à développer.
Jovin Moukadi, je rappelle que vous êtes conseiller chargé de la coopération internationale et de la coordination des partenaires techniques et financiers au ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Cela fait 4 jours depuis que la rentrée scolaire a eu lieu. Et qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain?
Bon, merci beaucoup pour la question et surtout la participation à cette émission. Sur le terrain, les constats que nous avons faits, c'est que la rentrée a été effective d'une manière générale sur toute l'étendue du territoire national, hormis évidemment certaines difficultés, surtout à l'est du pays, dans certains coins. Mais cette fois-ci, je crois que d'une manière générale, la rentrée scolaire a été vraiment effective par rapport au rapport que nous avons reçu des différents gestionnaires des écoles, aussi bien conventionnées que non conventionnées.
Pourtant, certains experts affirment qu'il n'y a pas eu engouement dans beaucoup d'écoles pour la simple raison que les parents n'ont pas réuni, n'est-ce pas, les conditions qui étaient exigées par ces écoles. Est-ce que vous êtes conscient de ces faits-là?
Vous savez, la rentrée scolaire pour les parents, nous devons encore revenir sur cette question. Il y a certains parents qui, jusqu'aujourd'hui, après plusieurs années de constat que les rentrées scolaires étaient difficiles, ont développé cette attitude de vouloir toujours amener leurs enfants en retard sous plusieurs prétextes. Mais nous disons que cette année, par rapport aux années précédentes, par rapport à la calmie que nous avons et à la paix retrouvée, vous avez remarqué vous-même à Kinshasa que la rentrée scolaire a été très forte, les embouteillages ont repris, donc ça signifie que l'école a repris.
Cette année scolaire a été déclarée première année du quinquennat de la qualité de l'enseignement et de la restauration du salut au drapeau en RDC. D'abord, pourquoi quinquennat de la qualité de l'enseignement?
Vous savez, monsieur le journaliste, que le chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé, tient à ce que l'État congolais, il a donné une vision pour une émergence de l'État congolais en 2030. Tout le monde a décrié la qualité de notre enseignement. Et pour qu'on atteigne cet objectif national, il faut préparer la classe, disons préparer la jeunesse, préparer cette situation avec un enseignement qui nous permet d'atteindre cet objectif national. Et nous ne pouvons pas, à ces moments, nous nous disons, est-ce qu'avec la qualité de l'enseignement que nous avons aujourd'hui, c'est la question que son Excellence Monsieur le Ministre Macaire se pose, nous pouvons atteindre cet objectif et en 2050 l'objectif de développement de ce pays. Donc nous devons repenser, tout le monde a décrié la qualité de l'enseignement, c'est ainsi que nous devons, après avoir réalisé l'objectif d'un nombre important d'enfants qui sont arrivés à l'école, vous le savez aussi bien que moi qu'aujourd'hui la RDC compte 14 millions d'élèves qui vont à l'école. Ce nombre-là va à l'école pour apprendre, pour acquérir des compétences. Est-ce que les compétences que ces enfants acquièrent aujourd'hui peuvent nous permettre d'atteindre cet objectif national d'émergence?
Et justement, qu'est-ce qui est prévu pour que cette qualité soit améliorée?
Il y a eu un événement que nous avons qualifié événement qualité, pour démarrer justement le quinquennat de la qualité. Plusieurs personnes venues des différents milieux, tous les partenaires éducatifs, se sont retrouvés pendant 2 jours pour réfléchir sur ce que nous devons faire pour que notre enseignement ait de la qualité et que les enfants qui arrivent à l'école en sortent avec des compétences, avec un apprentissage utile pour le développement du pays.
Et ils ont recommandé quoi?
Oh, il y a eu au moins, je crois, 40 recommandations. 40 recommandations qui ont été adressées aussi bien au gouvernement, aux partenaires techniques et financiers, à la société civile, aussi bien aux parents.
Alors,
aux enseignants, la même chose. Il y a eu des recommandations.
Dans les reportages que nous venons de suivre, que nous a proposé Jacques-Yves Molima, le ministre Macaire annonce que l'école va devenir une usine de production des matériels didactiques. Qu'est-ce que cela veut dire? Que le gouvernement va doter les écoles de machines pouvant permettre
la production des supports didactiques? Nous sommes dans une condition financière que vous connaissez. de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, avec la baisse du prix mondial du cuivre, vous savez que le budget de l'État ne sera pas ce qu'il était l'année passée. Dire que l'école va devenir une usine de production, ça signifie que nous allons demander aux enseignants, ainsi qu'aux élèves, de faire le nécessaire pour que nous puissions, avec les matériaux locaux, fabriquer nous-mêmes le minimum de matériel didactique nécessaire pour enseigner nos enfants.
C'est-à-dire,
Je donne un exemple. Dans le fait, pour faire par exemple un rectangle, une figure de rectangle, on n'a pas besoin que cela soit distribué par le gouvernement. On peut, avec des bambous, faire un rectangle, soit par le maître, soit par les élèves. Je crois que ceux qui ont étudié dans le milieu rural, comme beaucoup d'entre nous, savent ce qui se passait. Les travaux manuels, qu'on appelait les activités manuelles, ne s'intéressaient pas à demander de l'argent aux élèves, mais plutôt à leur apprendre à confectionner ou à produire un certain nombre de matériel didactique. C'est possible, avec notre environnement qui est suffisamment riche, on peut arriver à fabriquer de petits matériels qui servent à l'apprentissage des apprenants.
Merci. Stéphane Nguizani, secrétaire général adjoint du syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques du Congo, Sénécat en sigle. Vous êtes enseignant. Qu'est-ce que vous avez constaté ou qu'est-ce que vous constatez, n'est-ce pas, dans les écoles depuis lundi 7 septembre dernier?
Merci pour la question. Je crois que le constat d'emblée est amer. Par le fait que nous sommes sur terrain, il y a cela plus de 96 heures depuis que les élèves sont rentrés. Et vous remarquerez que la rentrée n'a pas vraiment été effective, quand bien même que les législateurs, le pouvoir organisateur l'a annoncé, l'a fixé pour le 7 septembre. Mais jusque-là, on comprend que la rentrée continue. Donc, c'est chaque parent qui fait rentrer ses enfants ou son enfant selon la date de sa convenance. C'est pour dire que c'est vraiment...
Et cela serait attribué à quoi? On peut attribuer cela à quoi?
À l'impréparation, tout simplement. Parce que la rentrée scolaire ne devait pas être un sujet de débat, ne devait pas être un sujet de propagande, parce que c'est un événement normal. Je crois que sous d'autres cieux, les gens n'en font pas un problème.
Alors l'impréparation est le fait de qui? Du gouvernement congolais ou des parents?
L'impréparation est du fait et du gouvernement et des parents également. Le gouvernement, c'est le pouvoir organisateur. C'est lui qui doit mobiliser les moyens pour que la rentrée soit réellement effective en mettant les moyens à la disposition des enseignants et en facilitant aux parents de pouvoir faire rentrer leurs enfants. Mais ce qui se dessine aujourd'hui, les parents sont en difficulté par le fait qu'il y a la fixation des frais exorbitants dans les écoles. On assiste à la vente des uniformes à l'école. On assiste à des acomptes qui sont hors normes. Et c'est là, tout ça a comme effet d'entraînement, les parents sont incapables de faire rentrer les enfants. Donc, le gouvernement a fixé la date, mais n'a pas pris des précautions pour rendre cette rentrée facile.
L'année scolaire 2015-2016 est déclarée première année du quinquennat de la qualité de l'enseignement et de la restauration du salut au drapeau en RDC. Et par rapport à la qualité de cet enseignement, le ministre Makir Mwangu affirme que la formation continue sera faite avec l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Et vous êtes enseignant. Est-ce que les écoles sont déjà dotées, n'est-ce pas, des machines adéquate?
Oui, il est bon de pouvoir donner des slogans, parce que pour moi, quand on dit que l'année scolaire 2015 est déclarée première année du quinquennat des qualités de l'enseignement, c'est ce que nous saluons, mais nous ne pouvons pas accepter que ça soit un simple slogan. parce qu'on assiste depuis longtemps à ce genre de slogans et de mots d'ordre.
Et pour que cela ne soit pas un simple slogan, qu'est-ce qu'il faut faire?
Bon, pour que cela ne soit pas un simple slogan, nous devons noter que la qualité de l'enseignement s'observe à travers plusieurs paramètres. À cela, il y a le contenu de l'enseignement, c'est-à-dire qu'il faut entendre le programme d'enseignement. Il y a le support pédagogique, il y a la qualité du personnel enseignant, et il y a également la définition du profil de l'homme à former. Et à cela, il faut ajouter les conditions socio-professionnelles du formateur qui est l'enseignant. Si ces éléments ne sont pas réunis, on ne peut pas parler de la qualité de l'enseignement.
Oui, chaque lundi, on instaure les saluts au drapeau. Donc, la première heure sera consacrée au salut au drapeau. Cela ne va pas perturber certaines matières qui sont enseignées à cette heure-là, à la première heure.
Bien. Je crois qu'il y a à boire et à manger dans ce qu'on appelle salut au drapeau, parce que c'est du déjà vu, c'est du déjà entendu. Je crois qu'on ne peut pas considérer cela comme étant une innovation. En tant que patriote, cela va de soi que l'enfant puisse chanter l'hymne national de son pays. Mais on ne doit pas considérer ça comme étant une innovation. Moi, je crois que les concepts, la nouvelle citoyenneté, ça c'est un concept, et qui doit être habillé. C'est-à-dire que maintenant là, il faut donner un contenu à ces concepts-là en faisant appel aux experts, et notamment les enseignants des universités, les spécialistes en cette matière, ainsi que les inspecteurs qui doivent amener un contenu. Je crois que ces cours ont existé, c'est le civisme, nous tous nous avions suivi cela. Moi, je crois que quand j'étais en première année primaire, je savais déjà chanter les debout congolais, parce qu'à notre époque, en 1965-66, j'étais déjà en première, c'était les debout congolais. Moi, je crois que c'est un exercice de routine, mais on ne doit pas faire de ça une innovation. En tant que patriote, nous saluons, mais je crois que la motivation ne doit pas être celle-là de pouvoir faire de ça comme étant une obligation pour un patriote. Sinon, alors, on va recourir au militantisme de d'autres fois du parti-État.
On sait qu'à l'époque, les cours d'éducation civique avaient comme objet, n'est-ce pas, l'idéologie d'un parti politique. Et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour qu'on ne puisse pas revenir, n'est-ce pas, à cela? C'est-à-dire aujourd'hui, on parle des innovations, il faut réinstaurer les cours d'éducation civique. Et on se rend compte que c'est plutôt l'idéologie d'un parti politique qui est enseignée aux élèves.
Oui, justement, c'est ce qu'il faut éviter. Je venais de le dire, il faut éviter que ces innovations puissent nous amener à un glissement et qu'au lieu de pouvoir acquérir les notions de morale, de civisme pour être un patriote, et qu'on puisse devenir un militant. C'est ce que nous devons éviter, raison pour laquelle le ministère doit faire appel aux experts pour qu'ils puissent donner un contenu qui pourra faire de cet enfant congolais un patriote et un monsieur bien éduqué sur le plan civisme et connaître le respect du bien commun et savoir défendre sa patrie lorsque la patrie est en danger.
L'on évoque toutes ces réformes, sans parler de l'amélioration des conditions de vie de l'enseignant que vous êtes. Vous pensez que ces innovations sont possibles sans amélioration de vos conditions de vie?
Oui. Ces innovations n'ont pas les raisons d'être si aujourd'hui les conditions socio-professionnelles de l'enseignant ne sont pas satisfaites. Parce que vous savez, c'est l'enseignant qui doit normalement transmettre ces innovations-là à l'élève. Mais quand on les met en position de difficulté de pouvoir former cet enfant-là en lui donnant un salaire qui ne lui permet pas de pouvoir nouer le deux bouts du mois, il y a à déplorer.
Merci, professeur Jean-Paul Oyawidi, doyen de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université pédagogique nationale UPEN en sigle. La rentrée était effective, la rentrée n'était pas effective. Comment vous analysez tout cela?
Merci beaucoup pour avoir voulu que je puisse intervenir dans cette émission. Et lorsqu'on parle de la rentrée scolaire, il ne suffit pas seulement d'ouvrir les portes de l'école. Il faut nécessairement qu'il y ait la rencontre des enseignants et des élèves, les apprenants, les autorités scolaires au niveau de chaque école doivent nécessairement être prêtes à recevoir, à accueillir les élèves. Et ces élèves qui arrivent doivent nécessairement rencontrer des enseignants disposés aussi à les accepter dans des salles de classe et à commencer des contrats didactiques avec ces enfants. Mais lorsque ces choses-là ne sont pas réunies, il est difficile de pouvoir parler de la rentrée scolaire parce qu'il ne faut pas considérer les choses au niveau des intentions, mais beaucoup plus au niveau théorique, mais beaucoup plus au niveau pratique. Et vous savez, l'année scolaire est déterminée dans les temps. Et pour l'école primaire, on a 220 jours d'enseignement. Il faut nécessairement que du côté des parents, côté élève, côté école, qu'on commence à indiquer. Et lorsqu'on parle de la rentrée scolaire, donc, nous commençons le compte à rebours. Et on s'engage dans le processus de l'enseignement apprentissage et il ne faut pas perdre du temps. Et lorsqu'on est en train de perdre du temps, c'est-à-dire chacun des acteurs qui pouvant intervenir dans ce qu'on appelle rentrée scolaire est absent. Alors nous ne voulons pas nous trouver dans des conditions où l'élève est absent, mentalement absent de la rentrée scolaire, les parents sont mentalement absents de la rentrée scolaire et les autorités aussi scolaires sont mentalement absents de la rentrée scolaire. Donc c'est un engagement à prendre du côté de tous les acteurs de façon à ce qu'on puisse commencer déjà à nous engager sur le processus du côté de l'élève de l'acquisition des matières et du côté de l'enseignant de la transmission des matières.
Oui, déjà à la rentrée, à cette rentrée scolaire, certaines réformes ont été annoncées, notamment le quinquennat, n'est-ce pas, de la qualité de l'enseignement et l'instauration du salut au drapeau. Comment vous analysez ces innovations?
C'est tout à fait normal lorsque j'ai suivi le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à l'université en été, et il a indiqué que tout cela faisait partie de son plan d'action. C'est tout à fait normal qu'un ministre puisse déjà envisager les choses dans le contexte de plan d'action. Lorsqu'il est en train de parler de l'amélioration de la qualité de notre enseignement, cela suppose quelque part et il se pose un problème réel. Et le problème est visible. Donc on constate la baisse du niveau de connaissances au niveau des élèves. Et le ministre est dans son secteur, il veut bien faire mieux, faire en sorte que l'on puisse s'activer à améliorer la qualité de l'enseignement. Lorsqu'il est dit, on ne peut que l'encourager. Et en ce qui concerne l'aspect de l'initiation à la citoyenneté, c'est aussi important ce que le ministre vient de dire, par le fait qu'on ne doit pas situer l'école au niveau seulement de la transmission des connaissances. On ne doit pas situer l'école au niveau seulement de l'acquisition des connaissances du côté des élèves, mais aussi l'école doit servir, doit s'occuper de la construction de la conscience morale, civique et patriotique de l'élève. L'école doit inculquer les valeurs civiques, morales et patriotiques. Et c'est dans ce contexte-là que lorsque le ministre dit qu'il sera obligatoire qu'il y ait le salut au drapeau et l'exécution de l'hymne national, et ça s'adresse à qui? Ce sont des enfants. Les enfants sont dans quelle période? La période de la construction de leur personnalité. Et il faut nécessairement commencer à intégrer les valeurs citoyennes dans l'enfant à partir de son âge, de son jeune âge. Donc, c'est-à-dire que moi, je ne peux pas réagir de manière émotionnelle pour dire que le ministre a tort, mais plutôt, je ne peux qu'accompagner le ministre dans son action. Surtout que je suis de l'université et le ministre est dans le secteur de l'enseignement primaire et secondaire. L'université, comme l'école, pour les cycles primaires, doit fonctionner, doit être intégrée. Alors, ce qu'il faut, que le ministre aussi puisse écouter les spécialistes dans les domaines, de façon à ce qu'ils puissent présenter le programme. les programmes, les contenus de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, de façon à ce que nous ne puissions pas aller dans les déviationnismes. Vous savez, tout ce qui se termine par isme, donc c'est à regretter. Donc nous voulons nécessairement, nous, au niveau de l'université, la faculté de psychologie, des sciences et l'éducation, accompagner le ministre dans sa vision, de façon à ce que les choses puissent aller dans le sens réel de l'amélioration de la qualité de notre enseignement et de faire appartenir l'enfant congolais au centre de son pays.
Professeur Yaouidi, pensez-vous que les conditions sont réunies pour que ces réformes puissent réussir, hein? Il y a le mode de recrutement des enseignants qui ne répond pas à certaines normes. À part la dimension scientifique, pédagogique, il y a aussi la dimension éthique qu'il faut prendre en compte lors de ces recrutements, parce que l'enseignant doit être un modèle, une référence. Apparemment, on ne tient plus compte de ces facteurs.
Non, en fait, nous devons toujours considérer, lorsqu'on lève une option, qu'on se mobilise à réunir les actions. Alors, on ne peut pas lever une option sans pour autant considérer les paramètres qui doivent aider à ce que cette option soit réalisée. Donc, le ministre ayant défini ce qu'il a dit, et donc, c'est-à-dire qu'il prend toutes les dispositions nécessaires. Et ces dispositions, il doit associer à cela les penseurs au niveau de l'université, de façon à ce qu'on puisse lui dire et lui apporter ces dons qui pouvaient être utiles dans la réalisation, dans l'atteinte de ces objectifs.
Oui, il y a aussi les modes d'orientation de l'élève qui devraient aussi être pris en compte. Où sont passés, à votre avis, les conseillers d'orientation dans les établissements scolaires?
En fait, les conseillers d'orientation existent. Les conseils d'orientation existent dans les écoles secondaires uniquement dans la ville de Kinshasa. Mais c'est ce dont nous sommes en train de regretter parce que, en fait, les postes des conseils d'orientation existent dans toutes les structures de notre enseignement. Et malheureusement, au niveau de l'intérieur du pays, il n'y a que les postes de responsabilité. Mais lorsqu'on sillonne, on va dans des écoles, le conseiller est absent. C'est ce que nous sommes en train de demander au ministre de pouvoir veiller sur cet aspect des choses. Surtout que dans la loi cadre, on a eu à réhabiliter les tests national d'orientation des sélections scolaires et professionnelles. Il faut nécessairement qu'il y ait des acteurs, des parties prenantes, des gens qui doivent nécessairement aller dans le sens que ces tests puissent se réaliser, et ce sont des conseils d'orientation. Donc il ne faut pas qu'au niveau du ministère de l'enseignement primaire et secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, parler de l'orientation et ignorer les acteurs d'orientation. Donc nous sommes en train de vouloir d'entreprendre une démarche de rencontrer le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, une certaine université, dans ce cadre-là, de façon à ce que nous puissions aussi lui apporter de l'aide qu'il faut en ce qui concerne l'utilisation rationnelle des conseillers d'orientation dans toutes nos écoles secondaires.
Oui, M. Jovin, vous allez réagir, n'est-ce pas, au propos de M. Stéphane et du professeur Yaouidi. Mais avant ça, il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Bukavu, au sud Kivu.
Isaac Bankori, ici de Bukavu, au sud Kivu. Comment le gouvernement peut-il prétendre former de bons citoyens alors que par la relégation aux oubliettes du principe constitutionnel de la gratuité de l'enseignement primaire, il condamne des milliers d'enfants des pauvres à l'analphabétisme avec toutes ses conséquences?
Oui, M. Jovin.
Merci beaucoup pour la question. Je crois que ça fait plus de 4 ans qu'on parle de la gratuité de l'enseignement. Et ce qui m'étonne, c'est que le Congolais lui-même ne perçoit pas les avancées par rapport à cette gratuité.
Quelles sont ces avancées?
Les avancées, nous étions en 2005 à moins de 7 millions d'enfants à l'école. Aujourd'hui, nous sommes à 14 millions. Et ceux qui suivent l'actualité savent que chaque année, il est organisé des campagnes d'inscription des enfants. Les enfants arrivent à l'école en nombre important. Et moi-même, j'ai été plusieurs fois dans les milieux ruraux. Et je dois vous dire qu'une fois j'étais à Kisangani, j'avais trouvé une salle, disons, une école avec moins de 100 élèves. Je suis reparti en 2011 après la mesure de la gratuité, il y avait plus de 500 élèves. Ce sont des réalités, les statistiques le prouvent. Donc nous ne pouvons pas continuer toujours à croire que jouer sur ces jeux que les Congolais aiment bien, l'autoflagellation. Parce que, s'il vous plaît, monsieur, je dois vous dire que les statistiques qui sont produites au niveau international sont en train de saluer. Tous les organismes internationaux saluent aujourd'hui les nombres importants d'enfants qui ont retrouvé le chemin de l'école.
Alors, comment vous
pour la République démocratique du Congo,
comment
s'il vous plaît.
Comment vous expliquez tous ces frais exorbitants, n'est-ce pas, auxquels sont soumis les parents?
Je crois que le professeur Yaoudi a été clair tout à l'heure. Le principe de gestion de l'enseignement en République démocratique du Congo, il est partenarial. Contrairement à ce que disait Stéphane, ce n'est pas hier qu'on a annoncé la date de la rentrée scolaire. Avant d'annoncer la date, la publication du calendrier scolaire, je crois qu'il y a une consultation qui s'est faite et c'est avant même que les élèves ne partent en vacances que ce calendrier est publié et que chaque enfant qui part en vacances part avec un bulletin de vacances. Et ce que nous constatons, c'est que les parents sont absents dans les écoles.
C'est-à-dire?
Absents, c'est-à-dire que ils reçoivent les enfants. C'est à la veille qu'ils constatent qu'il faut préparer la rentrée scolaire. C'est à la veille qu'ils doivent échanger avec le gestionnaire de l'école. Parce qu'il faut savoir, s'il vous plaît.
Vous êtes parents, vous semblez les parents dans ce pays.
C'est tout justement là la question du Congolais. La question du Congolais, c'est toujours jouer sur l'autoflagellation. Tout est négatif. Mais lorsque il y a un diplôme d'État en famille, personne ne sent que ces familles-là ont des problèmes. Les fêtes sont organisées. Laissez-moi vous expliquer. Les fêtes sont organisées, les routes sont coupées, des embouteillages partout.
Mais oui, mais
les mêmes parents, s'il vous plaît. Les mêmes parents, s'il vous plaît. C'est un problème de comportement. Les mêmes parents qui envoient un enfant à l'école, qui n'attendent que la fin de l'année pour organiser des fêtes lorsque l'enfant a réussi, doit aussi savoir qu'il est responsable. Parce que la fixation des frais scolaires a été décentralisée depuis très longtemps. Et les parents ont un comité de parents qui existe, qui doit normalement échanger avec le gestionnaire de l'école sur... Il y a eu des circulaires demandant même aux écoles de créer, d'ouvrir des comptes bancaires. Combien d'écoles l'ont fait? Combien de parents ont exigé que l'argent qui entre à l'école soit dans un compte bancaire, qu'il y ait un suivi par rapport à la formation de l'enfant?
Merci, M. Jovin. N'est-ce pas que vous, gouvernement, vous donnez beaucoup plus de pouvoir aux autorités de ces différentes écoles?
Quelle est la meilleure gestion? Quel est le meilleur système de gestion? N'est pas la décentralisation?
Merci.
Vous allez demander au ministre Macaire d'être dans chaque école.
Merci, M. Stéphane Mouizani. Il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Lubumbashi.
Christian Pania à Lubumbashi. L'innovation du salut au drapeau ne peut jamais changer l'enseignement au Congo. Est-ce que le gouvernement se rend compte que les enseignants réclament leurs arriérés de salaire? L'édition 2015, combien de bourses livrées? Homer, lauréat.
Stéphane Gouzani.
Oui, je crois que je l'avais dit, que ces innovations ne porteront rien si l'enseignant lui-même n'est pas pris en compte. Parce que c'est celui-là qui est devant la barque et qui doit conduire toutes ces réformes-là. Alors que si l'enseignant est toujours dans la précarité, nous voyons très mal pour qu'il puisse accompagner ces innovations. Tout ce que nous voulons, s'il y a des réformes à faire, il faut qu'il y ait des réformes productives et non contre-productives. C'est-à-dire en prenant en compte les conditions socio-professionnelles de l'enseignant, parce que c'est l'enseignant qui est pratiquement au centre. C'est à l'enseignant qu'on demande de pouvoir inculquer ces notions de civisme à l'enfant. Mais si l'enseignant déjà lui-même rentre avec un profil bas, comprenez que moi je suis père de famille, je rentre et que je commence à enseigner les enfants des autres, mes propres enfants sont encore à la maison. Parce que le gouvernement ne m'a pas donné les moyens. J'ai été payé depuis le 15, pratiquement août, et qu'au 7 septembre, je dois faire rentrer les enfants.
Et qu'est-ce que ça a l'air ?
Et c'est justement, et quand on me donne 110 000 francs, moi qui suis licencié, je ne vois pas si je dois payer les loyers, si je dois faire rentrer les enfants, et déjà dans les écoles où... Imaginez-vous, l'enseignant qui enseigne, par exemple, même au collège Boboto, même à Elikia, était capable de faire étudier son enfant dans cette école-là.
Vous êtes syndicaliste, avez-vous déjà, n'est-ce pas, transmis ces doléances au gouvernement?
Bon, je crois que le conseiller est là. Bon, de toutes les manières, nous avions tout le temps déposé notre cahier de charges auprès du gouvernement. Mais nous comprenons que l'attention du gouvernement est plutôt ailleurs que de pouvoir s'occuper des conditions socio-professionnelles des enseignants. À noter, j'ai participé aux conférences budgétaires. Et vous allez voir, par exemple, dans les prévisions que le ministère a menées au niveau des conférences budgétaires sur la rubrique rémunération, il n'y a aucune modification. C'est-à-dire que l'enseignant va continuer à toucher comme il touche. Donc, remarquez que cela attire moins l'attention du pouvoir organisateur. Donc, vous remarquerez qu'il y a aussi un lot des enseignants non payés qui ont déjà travaillé pendant 5-10 ans et qui ne sont pas payés. Et tout ça, c'est vraiment une discrimination. Donc, ces enseignants-là viennent travailler et ils ne dépendent que de la motivation des parents. Mais le gouvernement en soi le fait travailler pour ne pas les payer. Vous allez suivre, par exemple, le gouvernement a pratiquement négocié une rentrée apaisée avec un collectif des syndicats d'enseignants pour dire que on va prendre en compte 12 500 nouveaux cas de non payés sur les 36 000. Vous allez comprendre que le gouvernement n'a pas la volonté de pouvoir résoudre ce problème.
Monsieur Mouzani, vous avez suivi Monsieur Jovem Kadi qui a évoqué certains chiffres. Il dit qu'on est passé des 7 millions d'enfants à l'école il y a déjà quelques années, à plus de 14 millions d'enfants aujourd'hui, et il attribue cela à la gratuité de l'enseignement.
Bon, là, c'est peut-être son point de vue, mais je vais, par exemple, vous donner un exemple simple. Les 7, le gouvernement déclare qu'il y a 17 millions d'élèves qui sont rentrés. Mais le 8, c'était la journée mondiale d'alphabétisation. Et au finish, la déclaration qui sera faite, il y a 18 millions d'analphabètes. Remarquez qu'il y a une adéquation. Si on doit dire qu'on est passé de 5 millions à 14 millions et que la gratuité est effective, c'est au monsieur le conseiller de pouvoir les démontrer. Je ne sais pas ces chiffres statistiques d'où il les a tirés. Mais moi, je crois que le gros du problème, c'est de pouvoir rendre effective cette gratuité au regard de la Constitution qui stipule clairement que l'enseignement primaire doit être gratuit. Moi, je crois que la mise en application de cet article de la Constitution va résoudre le problème.
Merci. Professeur Yaouidi, il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Kananga.
Maître Adrien Ilobakwe-Ipero à Kananga, au Kasaï central. Je me demande les innovations auxquelles le gouvernement congolais fait allusion vont porter concrètement sur quel point? Est-ce c'est sur le plan de personnel ou sur le plan de système éducatif, car en voyant comment était la rentrée scolaire au début de la semaine, rien n'a changé, donc aucune innovation n'a été visible, moins encore palpable. Est-ce que le gouvernement congolais ne joue-t-il pas au jeu des mots?
Professeur Yaouidi.
Et en fait, nous devons commencer normalement à croire à l'autorité qui est à la réglementation de notre enseignement, qui est le pouvoir organisateur de l'enseignement. Lorsqu'il a levé une option, c'est-à-dire que à partir de maintenant, ou soit avant que l'option soit levée, et les actions commencent à être entreprises. Lorsque vous allez suivre le ministre de l'enseignement, Monsieur Marc Mwango, il dit qu'on doit orienter l'attention sur la condition de l'enseignant, on doit orienter l'attention sur les conditions d'apprentissage, on doit orienter l'attention sur les parents qui sont appelés aussi à envoyer en prendre en charge les enfants. Donc, c'est dire qu'il faut nécessairement que nous puissions croire à cela. Et lorsque nous nous disposons à croire, et nous allons, par notre comportement, nous mobiliser à aller dans le sens positif. Mais lorsque, au niveau mental, il y a blocage, c'est-à-dire même le comportement ne doit pas suivre. Alors, c'est maintenant que chacun a déjà pris conscience qu'il y a l'effritement des valeurs dans notre société, qu'il y a baisse de niveau de connaissance dans notre société, et à partir du moment où l'autorité politique lève le ton pour dire que nous devons améliorer, alors ce qu'il faut faire, il faut croire. Et lorsque nous croyons, nous l'accompagnons, chacun de nous se dispose à ces changements. Mais si nous ne croyons pas, c'est comme une barrière, un obstacle que nous sommes en train nous-mêmes de nous confectionner de façon à ce qu'on puisse aller nulle part. Donc, nous devons aller quelque part.
Professeur Awidi, comment entrevoyez-vous l'avenir de l'enseignement en RDC? On sait que beaucoup des pays de l'Afrique subsaharienne consacrent 20% de leur budget à l'enseignement. Il y a même le Sénégal qui a 40% de son budget, n'est-ce pas, qu'il a consacré à l'enseignement. Vous pensez que la RDC peut atteindre ce niveau?
Oui, lorsque vous êtes en train de lire la parole de Dieu, Dieu a prévu, il a dit... Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Et Dieu n'avait pas prévu qu'il y ait des gens qui ne peuvent pas s'aimer. Alors maintenant, lorsque nous sommes en train de vouloir que le développement de notre pays, on ne peut jamais penser au développement du pays sans régler la situation de l'école, sans régler la situation de l'acquisition des connaissances. Et à partir de ce moment où nous devons définir les types d'hommes que nous allons former pour le développement de notre pays, nous devons prendre des actions pour pouvoir réellement nous amener à atteindre cet objectif. Et comment devons-nous y arriver? C'est certes, il n'y a pas seulement à payer l'enseignant, mais l'enseignant doit être formé. Quelle est l'école ici dans notre pays qui forme l'enseignant de l'école primaire? Souvent on parle des humanités pédagogiques. Mais on oublie que l'humanité pédagogique, c'est avec option pédagogie générale. Et la pédagogie générale, et dans cette pédagogie générale, vous avez quelques semaines pour la pratique professionnelle. On
ne peut
pas former un enseignant avec des semaines de pratique professionnelle. Donc, c'est-à-dire la formation de l'enseignant est importante lorsque nous voulons nécessairement envisager un avenir meilleur pour notre école.
Pour ça, nous sommes à la fin de l'émission. Vous pouvez déjà commencer à conclure.
Oui, ben s'il faut conclure, moi je ne peux que dire au ministre de ne pas se décourager, mais que le ministre puisse nécessairement faire en sorte que l'université puisse aussi participer dans le changement qu'il compte réaliser au niveau de l'enseignement supérieur. Il ne peut pas mettre de côté l'université. Il ne peut pas mettre de côté la faculté de psychologie et de sciences d'éducation ou le rencontre des spécialistes en sciences de l'éducation de façon à ce qu'ils puissent donner leur avis dans ce qu'ils comptent entreprendre.
Monsieur Jovien Mokadi, ça sera sur votre conclusion. Il faut donner un contenu, n'est-ce pas, au concept de nouvelle citoyenneté comme l'a proposé Monsieur Stéphane.
Je crois que pour conclure, il faudra dire que le processus de l'élaboration des plans d'action est en cours. Le ministère a entamé des consultations avec toutes les parties prenantes. Nous allons élaborer un plan d'action. Comme nous allons aussi élaborer un plan d'action, d'ailleurs qui est en train d'être finalisé, un plan global de l'éducation et de la formation qui met au centre l'enseignant. Et je crois qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits, qui doivent être salués. Stéphane a parlé des 110 000 francs qu'il touche aujourd'hui. En 2007, quand moi je suis arrivé au ministère de l'EPSF, le salaire d'un enseignant représentait un pain de savon.
Oui, mais ça représente quoi aujourd'hui?
S'il vous plaît, quand nous parlons de pourcentage alloué à l'éducation, aujourd'hui le premier poste budgétaire, c'est l'éducation. Mais par rapport à quoi? Parce que combien de Congolais payent d'impôts? Vous avez parlé du Sénégal. Comparez le nombre de Sénégalais qui payent l'impôt par rapport au nombre de Congolais.
Merci, nous avons compris. Monsieur Stéphane Mouzani, votre conclusion?
Oui, la conclusion serait qu'on puisse allouer un budget conséquent à l'éducation et que l'éducation nationale soit appelée à mettre en place un système scolaire capable de former des femmes et des hommes complets et travailleurs qui puissent contribuer au développement de leur milieu.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Héritier Diakala qui était à la technique, à Alain Rung qui est écouté sous la supervision de Pelé Kipela Mondo, à la présentation Guy Maté. Merci et bon soutien au programme sur Radio Capi.